janvier 83, Raymond Père Philippe.
Je ne reviens plus sur la question de la qualité, ça ne veut pas dire que c'est terminé, mais il faut quand même avancer. Alors nous allons commencer après relation, qualité, quantité. Alors le domaine de la quantité, c'est particulièrement opaque. Si la qualité, elle se manifeste et qu'elle a une espèce de splendeur, vous allez voir que le domaine de la quantité, vous n'allez plus rien comprendre du tout. Je vous dis ça d'avance parce que c'est difficile à comprendre, la quantité. C'est les peser. Alors, c'est assez extrinsèque. Hein, parce que quand vous pesez tant de kilos, je ne sais pas si ça vous donne une intelligence plus grande de ce que vous êtes et de votre corps. Et pourtant, c'est important. La quantité est quand même quelque chose d'important. Mais c'est évidemment, c'est assez extérieur. Le poids de la quantité, l'espace de la quantité, au toit de là que je m'y mette, hein, ça c'est très poli. La quantité est quelque chose qui nous met dans l'extériorité. C'est tout le domaine de l'extériorité. C'est tout le domaine de la juxtaposition. C'est tout le domaine qui fait que, de fait, il n'y aura pas d'intériorité. C'est très curieux, le domaine de la quantité. Vous voyez, fondamentalement, la quantité présuppose la matière. On n'a pas encore traité de la matière, hein, au sens absolu, au point de vue philosophie première. Je vous ai dit, la matière, elle va se poser du côté de l'individuation, substance individualisée. Et c'est la matière avec la quantité. Les deux se tiennent. Mais la matière au plan proprement philosophie première, on la regarde non pas comme un principe propre, mais comme quelque chose qui permet à la substance d'exister de telle manière. C'est un pos, c'est du côté du comment. Et donc si c'est du côté du comment, c'est pas intelligible directement. Toujours, l'autre jour, avec M. Muralt, il montrait les interrogations du comment et du tiesti. Hein. Vous avez remarqué qu'il a montré que l'interrogation du comment était toujours complexe. Pourquoi ? Parce que l'interrogation du comment n'est intelligible qu'à cause des autres interrogations. L'interrogation du comment est toujours seconde. Elle n'est jamais première. Elle est du côté du conditionnement. Ce n'est pas le tiesti, c'est le comment. Et le comment, c'est toujours le conditionnement. Or, la matière n'apparaît au plan philosophique première que du côté du comment. Donc elle est toujours seconde. Et avec la matière apparaît la quantité. La quantité a une intelligibilité à la fois plus grande et moins grande que la matière. C'est très curieux. La matière est intelligible par le comment, tandis que la quantité, nous allons essayer de le comprendre, elle est saisie par une certaine expérience, il y a une certaine expérience de la quantité, mais une expérience qui n'est pas immédiate. C'est les sensibles propres qui sont saisis immédiatement. Les sensibles communs sont saisis par l'intermédiaire des sensibles propres. Or, les sensibles communs nous donnent une certaine expérience du monde quantitatif. Le monde, l'expérience du nombre. Il y a des gens qui sont très sensibles à ça. Une communauté de 10, une communauté de 90. Il y a des gens qui sont très sensibles à cette question du nombre. Et le nombre leur fait horreur. On comprend ? Parce que c'est toujours un peu massif. Il y a des gens qui sont très sensibles à la question de non plus seulement du nombre, mais je dirais du poids, de la grandeur. Curieux cela du reste. Ça frappe énormément notre imaginaire, la question de la quantité. Parce que, sensible au commun, qui dans l'ordre de l'imaginatif, nous allons le comprendre, va être quelque chose qui passera devant les autres. Il est évident que notre monde physique est un monde de la quantité. La qualité, c'est la lumière. C'est la qualité, c'est la lumière qui fait l'unité. Et le point de vue de la quantité donne comme une extension à notre univers qui apparaît comme un tout. Qualité, vous voyez, lumière et tout. Alors dès qu'il y a tout, il y a des parties. Et les parties proviennent du domaine de la quantité. Alors, il faudrait faire une petite enquête topique sur la quantité. C'est nécessaire de faire ça. Qu'est-ce que c'est que la quantité ? Alors ici, je vous rappelle, parce que c'est quand même toujours important, les premiers qui ont été très sensibilisés au domaine de la quantité, c'est les pythagoriciens, avec les nombres figures, qu'ils considèrent comme les principes des choses. Les pythagoriciens, c'était des mystiques, c'était des hommes religieux, et c'était des hommes des mathématiques. C'est très curieux, l'alliance des trois. Alors, les mathématiciens sont toujours un peu pythagoriciens. C'est intéressant de voir la mentalité des mathématiciens un peu mystiques. Alors, ils sont pythagoriciens. Ceux qui sont purement matheux, sans être mystiques, ne sont pas pythagoriciens. Il faut l'alliance des deux. La mystique et les mathématiques vous rendent un peu pythagoriciens. C'est quelque chose de spécial. Il est évident que c'est avant tout Aristote, je crois que c'est le premier, qui a réfléchi sur ce domaine propre de la quantité pour essayer de comprendre ce qu'est la quantité en elle-même, le tiesti de la quantité. Qu'est-ce que ça représente, la quantité, la quiddité de la quantité. Qu'est-ce que c'est que la quantité? Alors, toujours deux lieux. Premièrement, dans les catégories, Aristote commence par affirmer que la quantité est soit discrète, par exemple le nombre, soit continue, par exemple la ligne. Alors, il y a toujours ces deux aspects qu'il donne tout de suite. Autrement dit, la quantité apparaît tout de suite au niveau des catégories. Donc, les catégories, n'oubliez jamais que les catégories impliquent le légal. C'est la manière dont on dit, la manière dont on qualifie. Ce n'est donc pas directement et immédiatement le point de vue philosophique qui regarde la réalité telle qu'elle est, mais c'est la manière dont nous connaissons, et c'est en ce sens-là que les catégories sont quelque chose d'assez particulier. C'est une propédeutique qui nous introduit en philosophie. Je crois que c'est encore ça qui nous fait le mieux comprendre ce que c'est que les catégories. Il y a déjà une certaine élaboration, il y a déjà une certaine réflexion quand il s'agit des catégories. Et alors, on voit le legal. C'est vrai qu'on attribue à la réalité deux choses, le nombre et la grandeur. Le nombre et la grandeur. Et c'est deux choses tout à fait différentes. Regardez le nombre, alors vous additionnez, c'est l'addition. Et puis la grandeur, c'est ce qui est mesurable. Vous voyez tout de suite deux trucs, addition et division. Le nombre implique l'addition et la division. Et puis le point de vue de la question du mesurable. Donc, au niveau proprement des catégories, on comprend qu'il y a tout de suite, on ne réfléchit pas pourquoi. Il faudra, au terme, comprendre pourquoi le legein, le fait de dire, le fait d'attribuer, le legein de la quantité apparaît tout de suite double. Tout de suite. Comme on a vu que le legein de la qualité apparaissait tout de suite, non pas deux, mais quatre. C'est intéressant de voir ça, du reste, parce que ça fait tout de suite comprendre que dans ce domaine du dire, notre contact avec le réel implique tout de suite une certaine diversité. Donc, la question du continu, c'est la grandeur. Et Aristote précise, d'une part, elle est constituée de parties ayant une position les unes à l'égard des autres. D'autre part, elle est constituée de parties n'ayant pas de position les unes à l'égard des autres. Les parties du nombre n'ont aucune limite commune, où les parties sont en contact. Toujours, dès que je suis dans la quantité, la question de la partie et du tout apparaissent tout de suite. Alors, il y a une position des parties ou sans position. C'est très curieux. La grandeur implique position, le nombre n'implique pas de position. Donc le nombre est quelque chose de plus abstrait que la grandeur. Puisque de fait, les parties impliquent, vous n'avez qu'à réfléchir tout simplement. Dès que vous pensez, dès que vous réfléchissez sur le nombre n'est pas nécessairement situé. Tandis que la grandeur est toujours située. Donc il y a les parties qui sont situées, des parties qui ne sont pas situées. Ceci simplement la réflexion sur la manière dont vous attribuez. Vous voyez, c'est intéressant parce que c'est le premier contact philosophique que j'ai. Enfin, c'est le langage. Dès que vous regardez le langage, vous voyez que de fait, vous attribuez à Pierre. Pierre fait partie du nombre. Vous êtes un numéro dans la communauté. Point de vue quantitatif. Pas au point de vue qualitatif, mais au point de vue quantitatif. Vous êtes un numéro dans la quantité, dans la communauté. C'est jamais drôle d'être un numéro dans la quantité, dans un tout. La quantité, c'est le tout et la partie. Alors, il faut comprendre ces deux aspects très très différents que représentent les deux aspects. Certaines quantités sont constituées de parties ayant une position les unes à l'égard des autres. Par exemple, les parties de la ligne ont une position les unes par rapport aux autres. Mais il y a d'autres quantités qui sont constituées de parties n'ayant pas de position les unes par rapport aux autres. Par exemple, le nombre et le temps. Le temps fait partie aussi de la quantité. C'est aussi les deux aspects. Alors, toujours partie et tout, mais ayant position ou n'ayant pas de position. Simplement constatation. Je décris. Au niveau des catégories, je décris. C'est pour ça que les catégories, il faut lire les catégories et les relire. Les catégories d'Aristote. Il faut à tout prix qu'au bout de 6 mois ou 1 an de philosophie, on ait quand même lu les catégories d'Aristote. Ça, c'est un livre qu'on doit lire. Qu'on doit lire, et parce que c'est important, c'est le premier contact. Alors, il faut revenir et essayer de saisir. Il y a des quantités proprement dites, et il y a des quantités dites d'une manière accidentelle. Dans le légal. Alors, il faut bien saisir. On dit, par exemple, que le blanc est grand, du fait même que la surface blanche est grande. On parle d'une action longue. C'est de l'ordre de l'attribution. On voit bien que là, nous sommes en face d'une quantité qui est per accidens. La blancheur n'implique, puisque la blancheur, c'est de l'ordre de la qualité. La blancheur en elle-même n'implique absolument pas la quantité. Mais on peut dire une blancheur qui a une très grande surface. Donc c'est accidentel, c'est en raison même du sujet sur lequel cette blancheur est présente. Autrement, elle n'aurait pas cela. Donc c'est accidentel, c'est par le point de vue du sujet. Alors vous voyez que le sujet contamine la qualité. Puisque vous parlez d'une blancheur qui a une grande surface. Très curieux, ça. Vous voyez, le conditionnement. Et ça, c'est vraiment le conditionnement. On voit très très bien ça. Alors, les catégories donnent certaines propriétés de la quantité. La quantité n'a pas de contraire, car elle est une multiplicité homogène. Les parties quantitatives n'ont par elles-mêmes aucune différence. C'est le monde de l'uniformité. Très curieux. Les gens qui ont un sens très aigu de la quantité sont dans l'uniformité. Surtout pas de différence. Toute différence est dangereuse parce qu'elle est qualitative. La diaphora, elle est la qualité. Tandis qu'au contraire, nous l'avons vu, hein, tandis qu'au contraire, le point de vue de la quantité, c'est l'uniformité. Le monde de la quantité, c'est le monde d'uniformité. Alors ça, c'est très important à comprendre, parce que dès qu'on commence à voir le point de vue de l'uniformité, c'est la quantité qui l'emporte. Alors on pourrait ajouter, cependant, il y a opposition entre le petit et grand, entre beaucoup et peu. En réalité, il s'agit d'une opposition relative. On n'est pas grand en soi, mais par rapport à un autre. Ce n'est pas une véritable contrariété, mais on peut dire à la fois grand et petit relativement à différents êtres, ce qui indique bien qu'il ne s'agit pas de contraire. Il n'y a pas de contrariété dans le domaine de la quantité. Il n'y a pas de contrariété. Je vous dis, le domaine de la quantité, c'est le domaine de l'uniformité. La quantité n'est pas susceptible de plus et du moins. Donc pas de contrariété, pas de plus et de moins, donc pas de différence. Mais ce qui, plus que tout, est le caractère propre de la quantité, c'est l'égalité. Oui, la Sainte République, elle est dans l'égalité et donc dans le domaine de la quantité, dès le point de départ. Il ne faut pas l'oublier. Et l'aspect, très souvent aujourd'hui, hein, c'est très souvent que c'est comme ça, c'est l'égalité, c'est le domaine de la quantité. C'est l'égal ou l'inégal, le toison. Il faut au moins le retenir en grec, hein, le toison. Parce que comme ça, quand les gens vous parlent d'égalité, ah oui, le toison, alors vous avez le droit de le dire. Et alors immédiatement, c'est le domaine de la quantité, vous comprenez. Et le aniston, hein, tout simplement l'inégalité. Aristote le montre encore par induction, c'est très intéressant du reste, hein. Et il faut bien comprendre, hein, que le domaine de la quantité, c'est le domaine de l'égalité et le domaine de l'uniformité. C'est pour ça que c'est très ennuyeux. Vous voyez ça? Si tout le monde avait la même tête, vous seriez très fatigué. Au bout d'un certain temps, vous auriez une sainte horreur de votre tête. Parce que vous verriez que tout le monde a la même tête. Au moins, il y a des têtes différentes. La figura amène une diversité. Alors ça amène évidemment des oppositions, des sympathies et des antipathies. Tandis qu'il n'y aurait aucune sympathie, aucune antipathie. Vous voyez comme ça rend mieux. Le domaine de la quantité, c'est ça. C'est un domaine d'uniformité. Par contre, toutes les déterminations qui ne sont pas des quantités ne peuvent d'aucune façon, semble-t-il, être affirmées égales ou inégales. L'égalité est la relation qui unit ou unifie des quantités. C'est tout à fait caractéristique de la quantité. Donc le tout-issant, ça c'est tout à fait ça, il faut le retenir, il faut comprendre, essayer de saisir, par induction tout simplement, le domaine de l'égalité. C'est intéressant parce que vous voyez, si c'est la propriété caractéristique de la quantité, c'est par là que je vais entrer dans le domaine de la quantité, le tout-issant, l'égal. C'est des gens qui ont le culte de l'égalité. Le culte de l'égalité, c'est le culte de fait de la quantité. Vous n'êtes jamais très intelligent quand vous avez le culte de l'égalité. C'est curieux. C'est comme ça. C'est uniforme, c'est univoque. C'est le point de vue du conditionnement qui prime. Dès que vous comprenez la finalité, vous sortez de l'égalité. Tout de suite. Il y a un vieux reste, vous savez, en nous, en chacun d'entre nous, c'est pour ça que j'insiste un peu. Il y a un vieux reste d'égalité. Ça. On nous a tellement bercé dans l'égalité, n'est-ce pas ? Et on continue de nous bercer dans l'égalité. Alors, et il faut que ça aille au même rythme, n'est-ce pas ? Donc c'est la sainte égalité. Mais c'est terrible ! Un monde où l'égalité dominerait de façon absolue, l'égalité sociale, l'égalité dans tous les sens. Alors à ce moment-là, il n'y a plus que l'uniformité, il n'y a plus que la platitude, il n'y a qu'un pas à faire, vous voyez, entre l'uniformité et la platitude. Alors la platitude, ça dit bien ce que c'est, ça montre bien. Alors vous avez l'égalité, l'uniformité, la platitude. Et alors à partir de là, vous voyez que vous êtes dans un monde quantitatif. Je dis ça parce que un des grands dangers de notre monde d'aujourd'hui, c'est l'oubli de la qualité et de tomber dans la quantité. Et c'est une chute terrible. Et vous y en sortez très difficilement. Parce que la quantité, ça vous englue. Parce que ça vous englue, ça vous maintient toujours dans ce domaine-là. Donc, ça, c'est les catégories. Vous voyez, les catégories disent des choses très simples, mais c'est intéressant, ça. Relisez. Je ne vérifie pas si vous faites ces lectures-là, mais je vous dis ça. Il faut que tous vous ayez lu pendant votre... avant Pâques, les catégories d'Aristote. Il faut les avoir lues, ça. Une première fois, une seconde fois, une troisième fois, vous comprenez bien, mais il faut bien les lire une première fois. Et alors, une fois qu'on l'a lu une première fois, parce que c'est important, propédeutique, c'est la porte d'entrée. Et puis, ça montre une réflexion assez intelligente, assez astucieuse. Au début, on ne comprend pas très bien, mais puis alors après, on comprend. Dans la philosophie première, la quantité est présentée comme des acceptions de ce qui est. C'est-à-dire, vous regarderez dans Métaphysique, Delta 7. C'est le livre Métaphysique Delta 7. Vous savez bien, le livre Delta, c'est le livre, c'est le petit dictionnaire d'Aristote. Il faudrait séparer le livre Delta de tout le reste en mettant dictionnaire aristotélicien des mots philosophiques. N'est-ce pas ? Il y avoir une traduction parfaite du livre Delta. Et alors le livre Delta est quelque chose auquel on doit se référer souvent. On doit se référer souvent au livre Delta. C'est le dictionnaire, c'est le Lalande intelligent. Vous voyez, c'est quand même quelque chose. C'est le Lalande, c'est le dictionnaire philosophique, c'est le Lalande, mais c'est moins intelligent. Tandis que prototype, après on est tombé dans les séries. Tandis que là, c'est très intelligent. Là aussi, il faut avoir lu le livre Delta. Vous voyez ? Ça, c'est des choses élémentaires que je vous donne. On entre dans Aristote par les catégories. C'est déjà beaucoup plus intelligent le livre Delta, mais c'est bon d'avoir lu le livre Delta pour comprendre les termes philosophiques, les termes essentiels. Il a donné ça comme petit dictionnaire. C'est les étudiants qui ont dû lui demander ça. Les étudiants disent, mais vous employez toujours ce terme, qu'est-ce que ça veut dire? Donnez-le-nous. Alors il a donné un petit livre avec des significations diverses dans le livre Delta. Donc il faut comprendre que c'est intéressant pour nous. L'être se prend en de multiples acceptions, dit-il, qui correspondent aux divers types de catégories. À chaque catégorie correspond un des sens de l'être. Aristote, après l'ousia et la qualité, nomme la quantité. La quantité est constituée comme distincte de la substance. Mais alors le problème de la multiplicité des substances se pose avec d'autant plus de force. N'oublions pas que ce jugement très significatif d'Aristote sur la doctrine des platoniciens, qui se trouvaient fort embarrassés pour expliquer comment il peut y avoir plusieurs substances en acte et non une seule. Voici ce que Aristote peut nous dire. À moins d'identifier aussi l'ousia et la quantité. Et on ne peut pas dire que les platoniciens aient montré comment et pourquoi il y a une multiplicité d'êtres. Très intéressant ce petit passage. Le pourquoi et le comment. Ils ont seulement montré comment il y a une multiplicité de quantités. Tout nombre, en effet, signifie quelque quantité. Et l'unité elle-même est une quantité. À moins de la considérer comme mesure, en ce qu'elle est indivisible dans l'ordre de la quantité. Très important. Vous voyez ce jugement d'Aristote, qui montre que les platoniciens, Platon, et les disciples de Platon, parce que ça fait déjà école du temps d'Aristote, donc c'est Platon et les disciples de Platon, n'ont pas distingué l'ousia de la quantité. Ils n'ont pas distingué les deux. Et on comprend très bien pourquoi, vous comprenez, vous saisissez, j'espère. Pour Platon, qu'est-ce que c'est que la matière? Pour Platon, la matière égale non-être. Si la matière égale non-être, vous comprenez très bien que la quantité qui suis la matière. Vous n'avez pas une quantité en soi. Hein. Impossible, la quantité est toujours, ça accompagne. Vous voyez, si l'un est l'acolyte de l'être, la quantité est l'acolyte de la matière. Toujours. Dès qu'il y a quantité, il y a matière. C'est impossible autrement. Alors, si vous considérez le non-être, la matière comme du non-être, la quantité, négligeable. Vous ne pouvez plus saisir ce que c'est. Mais vous la rejetez, vous la mettez dans la poubelle. La poubelle métaphysique, hein, c'est quelque chose d'assez particulier. Alors vous la rejetez et vous considérez que ça n'a aucune signification et vous ne regardez plus que l'ousia au niveau de l'idée. C'est arrière-fond, c'est intéressant parce que l'arrière-fond d'Aristote c'est toujours Platon. Hein. Alors, c'est la toile de fond. Alors, c'est quand même intéressant de voir cette toile de fond sur laquelle, de fait, Aristote va, lui, donner au contraire une signification à ce que représente la quantité. Donc, dans le livre Delta, Aristote détermine ce qu'est la quantité, le tiesti de la quantité, le tiesti du possum. Qu'est-ce que c'est que ce possum ? Qu'est-ce que c'est que la quantité ? La quantité se dit de ce qui est divisible. Non, tout de suite. Dès qu'on est en métaphysique, tout de suite. Quantité est divisible. Au fond, c'est toute la question, ce sera d'essayer de comprendre le rapport qui existe entre quantité et divisible. La quantité, c'est le domaine du divisible. Vous voyez, comme tout de suite... Sentez la différence, hein, le passage des catégories où on est uniquement dans la description, on décrit, on regarde la manière dont on se sert du nombre et de la quantité par rapport à la réalité. Pierre est grand, Pierre est dans un tout, il est dans une multitude. Et puis lorsqu'il s'agit de la métaphysique, on se pose la question, qu'est-ce que c'est que la quantité ? La quantité se dit de ce qui est divisible. Le to diaireton, le divisible. Le divisible en deux ou en plusieurs éléments intégrants, dont chacun est par nature quelque chose d'un et de déterminé. Voilà le propre de la quantité. C'est le domaine du divisible. C'est dit tout de suite. Hein. On va essayer de le comprendre après, mais... Il faut saisir, parce qu'Aristote est quand même s'il est le premier philosophe de la qualité, le premier philosophe de la quantité aussi. De fait, puisque chez Platon, la quantité est négligeable. Une multiplicité, en tant que nombrable, est une certaine quantité, et de même une grandeur, en tant qu'elle est mesurable. Elle est dite multiplicité, donc, et dit multiplicité ce qui est en puissance, divisible en partie non continue. Et dit grandeur, ce qui est en puissance divisible en partie continue. Là, il y a deux définitions très intéressantes. Il faut essayer de comprendre ce que ça veut dire. Et dit multiplicité, donc la question de la multiplicité, c'est la question du nombre. La question du nombre. Ce qui est en puissance divisible en partie non continue. En partie non continue, c'est-à-dire en partie qui n'ont pas de situation. Alors, c'est ça le multiple. N'oubliez pas hein, l'arrière-fond platonicien. Le multiple, c'est inintelligible pour le Platon. Aristote veut donner une intelligibilité du multiple. Quelle est l'intelligibilité du multiple ? Eh bien, l'intelligibilité du multiple, c'est d'essayer de comprendre justement que le multiple, comme tel, est dit multiplicité, ce qui est en puissance divisible en partie non continue. Ce qui est en puissance divisible, au fond, c'est le divisible. C'est pas directement, vous voyez, il y a une espèce d'intelligibilité qui demeure potentielle. Et dit grandeur, ce qui est en puissance divisible en partie continue. La grandeur continue dans une seule dimension et la longueur. Dans deux dimensions, c'est la largeur. Dans trois dimensions, la profondeur. Une multiplicité finie est le nombre, une longueur finie la ligne, la largeur finie la surface, et une profondeur finie le corps. Vous voyez, pour la philosophie du corps, c'est très important de voir ici une définition du corps qui n'est pas du tout le corps vivant. Hein. Faisons attention. C'est le corps dans le sens premier, c'est-à-dire dans l'ordre quantitatif. Aristote précise également qu'il faut distinguer les quantités par soi et les quantités accidentelles, par accidens, kata sum bevecos, ce qu'il avait fait dans les catégories. Enfin, la quantité per accident se trouve réalisée tantôt comme le musicien ou le blanc, qui sont quantités en raison de leur sujet. En raison de leur sujet, la qualité devient quantité. Mais alors, c'est une quantité accidentelle, ce n'est plus une quantité première. Bon, il est bien évident que dans la philosophie d'Aristote, la quantité va prendre une place très importante dans toute sa philosophie de la nature. Alors ça, je ne le regarde pas, mais en fond, c'est le continu. Le continu qui est le sujet du mouvement. Il n'y aurait pas de mouvement physique sans la quantité. Condition sine qua non du mouvement physique. Mouvement physique. La condition sine qua non. C'est s'il n'y a pas. Ça ne dit pas ce que c'est le mouvement. Mais le mouvement physique présuppose toujours la quantité. Et il y aura, et de fait, il y aura un mouvement particulier qui sera à l'intérieur même de la quantité. Oui. Pour tout mouvement physique, la quantité est une condition sine qua non. Mais pour ce qu'on appelle la croissance, c'est un mouvement à l'intérieur de la quantité. La croissance est un mouvement à l'intérieur de la quantité. C'est un mouvement qui permet qu'on grandisse. La croissance ou le fait de maigrir ou au contraire de grossir. Vous voyez, c'est la pesée. Alors vous voyez, si vous avez grossi, vous avez maigri. C'est un mouvement purement quantitatif, donc ne vous inquiétez pas trop. La qualité demeure la même. Ce n'est pas parce que vous avez maigri que vous êtes moins intelligent. Ce n'est pas parce que vous avez grossi que vous êtes moins intelligent. Les qualités demeurent les mêmes. C'est un mouvement à l'intérieur de la quantité. Mais c'est très intéressant et c'est très curieux de voir qu'à l'intérieur de la quantité, il peut y avoir un mouvement. Et qu'il y a un mouvement d'un caractère spécial, particulier. Alors, il serait très intéressant ici de regarder ce que devient la quantité dans le monde stoïcien. Je ne vais pas le faire, hein. Mais ce serait très intéressant de voir que la quantité dans le monde stoïcien, parce que la question du corps qui définit l'être, alors prend une importance énorme. Je crois que le point de vue du stoïcisme va être toujours un peu une matérialisation, une quantification. La quantité a été reprise d'une manière très particulière par saint Thomas. Et c'est important de voir que dans saint Thomas, la quantité est reprise. Et c'est vrai, saint Thomas a toute une philosophie de la quantité. Il y a des lieux très importants, je ne vais pas les voir avec vous maintenant, parce que ce serait trop... Ça nous amènerait trop loin, si vous voulez. Il serait intéressant, au point de vue topique historique, de se demander comment la quantité, avec la théologie de Nicolas de Cuse, on va demander à M. Mural, une fois, de vous faire un cours sur Nicolas de Cuse. Alors à ce moment-là, vous comprendrez ce que c'est que la quantité, n'est-ce pas? Parce que la quantité, dans Nicolas de Cuse, c'est vraiment... Je crois que la quantité devient primordiale dans Nicolas de Cuse. C'est tout le domaine de l'infini. Ce qui est divisible à l'infini. Alors ça, il faut au moins le noter. Parce que je crois que c'est Nicolas de Cuse qui est le théologien de la quantité. Ça explique des quantités de choses. Parce que c'est le théologien de la quantité, c'est quelque chose de très particulier. Maintenant, posons-nous, alors au plan proprement philosophique, posons-nous, comment pouvons-nous connaître philosophiquement la quantité ? Donc, topic historique, j'ai regardé Aristote puisque c'est le point de départ, puis le reste, on va vite. Le langage. Je reviens aux catégories d'une autre manière qu'Aristote. Je vois que dans le langage, il est sûr que le domaine de la quantité joue un rôle important. Grandeur, longueur, hauteur, poids expriment les dimensions d'une réalité physique. C'est le domaine des dimensions. Et c'est le domaine aussi de toute une série de relations particulières, égales et inégales. Je ne peux pas nier qu'au niveau du langage, je retrouve ce qu'Aristote avait signalé au niveau des catégories, qu'il y a une manière pour moi de m'approcher du réel, qu'il y a une manière pour moi de m'approcher de l'homme en regardant ce que représente ce domaine de la quantité. Ce domaine de la quantité qui extériorise les choses et qui en même temps individualise. C'est par la quantité que je touche ce qu'il y a de particulier à chaque individu, et je dis bien chaque individu, de toutes les réalités que je touche. Il y a une individualité dans la quantité et en même temps une extériorité. Je crois que c'est les deux aspects que nous pouvons constater par le langage. Et du fait même qu'il y a cette extériorité et cette individualité, je vois que les choses peuvent se nombrer, peuvent s'additionner. C'est un phénomène très curieux. Je peux additionner les choses, ou bien je peux soustraire. Ça, c'est le domaine de la quantité. Je peux additionner et soustraire. Je peux en mettre plus, je peux en mettre moins. Et je peux retrouver ici aussi, alors ce serait intéressant à voir, la place de l'égalité dans le domaine du langage, dans le domaine de l'expérience la plus ordinaire. Ce qui est plus intéressant à voir, c'est de bien comprendre comment mon approche de la quantité n'est jamais directe, au point de vue connaissant. Alors ici, je quitte le langage et puis j'essaie de comprendre un tout petit peu le fondement du langage. Comment je puis connaître la réalité ? Nous avons vu que les qualités sensibles sont immédiatement connaissables. Tandis que ce que représentent les sensibles communs sont toujours connus par l'intermédiaire des qualités propre, des sensibles propres. Il y a donc une connaissance sensible de la quantité. S'il y a une connaissance sensible de la quantité, elle n'est jamais directe. Elle est toujours médiatisée. Toutes vos connaissances sensibles de la quantité sont médiatisées par la qualité. Vous connaissez la quantité par l'intermédiaire de la qualité, puisque la qualité manifeste, révèle, dévoile, alors que le domaine de la quantité ne dévoile pas du tout. C'est vrai, la quantité ne dévoile pas. C'est commun. Ce qui est commun ne dévoile pas. Vous êtes perdu dans l'aspect commun. L'aspect commun du nombre, l'aspect commun de la grandeur. Il y a deux manières de se perdre. Au point de vue proprement philosophique, vous voyez. Deux manières de se perdre. C'est une manière de se perdre dans le domaine de la grandeur, dans le domaine du nombre. Et c'est jamais saisi directement. C'est quelque chose qui est second. Alors, Pouvons-nous avoir une connaissance philosophique de la quantité à partir de ce sensible commun qui est le domaine de la quantité, de la grandeur et du nombre? Et j'ai bien là tout de suite les deux, vous voyez. C'est assez curieux que, comme sensible commun, j'ai vraiment deux aspects irréductibles qui correspondent bien à ce qu'Aristote disait, la quantité discrète et la quantité continue. Alors ça m'intéresse, parce que je vois que quantité discrète et quantité continue reposent tout simplement sur les sensibles communs. Et là, ça confirme bien que les catégories sont au niveau descriptif. Parce que ça se fonde directement sur les sensibles communs. Les sensibles communs, en effet, continuent et discrets. Ces sensibles communs deviennent très importants quand il s'agit de l'image. Quand il s'agit de l'image, et c'est pour ça que je situe tout de suite, quand il s'agit d'une image, dans l'ordre de l'imagination, les sensibles communs apparaissent comme premiers. Donc, pour la connaissance imaginative, la quantité est première. Tandis que dans la connaissance sensible et dans la connaissance intellectuelle qui suit la quantité, la connaissance sensible, la quantité n'est jamais première. C'est dans le domaine imaginatif que la quantité est première. Ça, je crois, très important à souligner, que dans le domaine de l'imagination, la quantité est première. Vous voyez tout de suite, hein, quand le domaine quantitatif l'emporte sur le domaine qualitatif, c'est l'imaginaire. C'est le monde de l'imaginaire. Vous vous engouffrez dans l'imaginaire. Tandis qu'on ne s'engouffre jamais dans l'imaginaire par la qualité. La qualité appelle l'intelligence. La quantité appelle l'imagination. Il y a un parallélisme entre les deux qui est très curieux, le domaine de la quantité, le domaine de l'imaginaire. Il faudra essayer de comprendre pourquoi, hein, mais je le constate tout de suite, ça. Et je crois que ça joue un très grand rôle quand j'essaie de comprendre qu'est-ce que c'est que la quantité. Je constate, au point de vue de la connaissance que j'ai dans le domaine quantitatif, que ce domaine quantitatif, dans l'ordre de l'image, dans l'ordre de l'imagination, apparaît comme premier. Je me pose la question, qu'est-ce que c'est que la quantité? À partir de ces diverses connaissances que j'ai, que je viens de vous rappeler, le langage, le point de vue de la connaissance sensible, des sensibles propres et des sensibles communs, et puis de l'imagination. Qu'est-ce que c'est que la quantité? Le tiesti de la quantité. Je vois que le tiesti de la quantité est essentiellement intermédiaire. Et c'est pour ça qu'il est si difficile à saisir. Si je pousse le tiesti jusqu'au bout, dans le domaine du continu ou dans le domaine du nombre, j'aboutirai à la phusis matière, à la nature matière. Si je reste dans le domaine des apparences, je regarde les qualités. Les apparences, au point de vue sensible, sont premièrement les qualités. Et il y a un entre-deux qui est justement ce domaine quantitatif, qui est un entre-deux, qui est quelque chose d'intermédiaire. Et c'est pour ça que c'est difficile à saisir, parce que, de fait, où on ramène tout à la phusis matière, où on ramène tout aux apparences. Alors qu'il y a un domaine intermédiaire qui sera ce domaine que je connais, on l'a vu, je connais comme un domaine sensible que je connais par le point de vue de l'imagination, qui est un domaine que l'imagination exalte, ce domaine intermédiaire où l'intelligence n'est jamais à l'aise. L'intelligence n'est jamais à l'aise dans le domaine quantitatif. Parce qu'elle est toujours prise entre deux. L'intelligence est à l'aise dans la fusis matière, ça c'est évident, parce que c'est de l'ordre de l'analyse. L'intelligence est à l'aise dans le domaine des sensibles propres, parce que c'est immédiate. Tandis que là, je suis dans un domaine sensible, qui réclamerait une connaissance immédiate, et qui pourtant n'est pas immédiate. Je vois donc que ce domaine quantitatif est un domaine intermédiaire. Je me pose la question, qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que c'est? C'est une forme matérielle. C'est bien une forme, c'est une certaine détermination, puisque c'est un intermédiaire. Ce n'est pas complètement indéterminé. Mais c'est une forme matérielle, ce n'est pas contradictoire. Mais voyez comme c'est délicat par rapport à la connaissance, par rapport à l'intelligence. Dire une forme matérielle, normalement, on distingue bien entre nature, la phusis forme et la phusis matière. Bien, il y a quelque chose qui est à la fois forme et matière. Et la quantité, elle est forme et matière. C'est une forme matérielle, la quantité. Et c'est en ce sens-là qu'elle est essentiellement en puissance. C'est en ce sens-là qu'elle est divisible. Parce qu'elle est matière, donc elle est en puissance. Elle est essentiellement en puissance. Et cependant, elle implique la forme. Elle implique la forme parce qu'elle n'est pas quelque chose de radical comme la matière. Elle est un intermédiaire. Donc elle participe des deux en quelque sorte. Elle participe de la détermination des sensibles propres et elle participe de l'indétermination de la matière. Elle est à la fois essentiellement indéterminée. C'est pour ça que l'intelligence n'est jamais à l'aise. Essentiellement indéterminée et cependant, elle est essentiellement déterminée. Alors faites le lien entre les deux. Vous avez une détermination qui est essentiellement indéterminée. Et ça paraît presque contradictoire, hein? Et c'est pas contradictoire. Et cependant, c'est ça le domaine de la quantité. C'est pour ça que l'intelligence n'est pas à l'aise, sauf dans une pensée dialectique. Et c'est peut-être ça qui va faire comprendre la naissance de la dialectique. Parce que c'est dans ce domaine-là où, de fait, je dépasse une espèce de contradiction. Alors faisons attention, ce n'est pas une contradiction au niveau de l'être, c'est une contradiction au niveau de la détermination. Donc au niveau de la forme. Elle est à la fois forme et non forme. La quantité est forme et non forme. C'est bien cela que je veux dire quand je dis que la quantité est essentiellement divisible. Si elle est essentiellement divisible, elle est ce domaine qui implique donc quelque chose qui est radicalement en elle-même en puissance, donc indéterminé. Ce qui est en puissance est indéterminé et non déterminé. Et cependant, elle implique quelque chose de formel, elle est divisible. Elle n'est pas la matière. Vous voyez, c'est cet entre-deux, c'est ça que je voudrais que vous compreniez. Elle est entre deux. Alors là, vous voyez la parenté avec l'imagination. L'imagination, c'est une connaissance intermédiaire. C'est ni la sensation, ni l'intelligence. Alors, il y a une analogie constante entre le domaine de l'imagination dans le domaine de l'intentionnalité et le domaine de la quantité dans le domaine ontologique.